Salut Daniel. Ben non, j'ai pas rêvé. Hier soir, j'avais la tête bêtement tournée vers mon écran de télé qui était allumé, et qu'est-ce que je vois? Une pub avec qui dedans? Avec la nouvelle première dame de France. Et oui, elle fait de la pub pour une bagnole italienne, notre Carla Bruni nationale. Et elle se contente pas de faire de la pub, elle fait aussi un petit clin d'œil au plan banlieue de Sadella Amara, parce que dans la pub, elle brûle sa voiture. Voilà, je pense que c'est pour aider dans les banlieues, ou alors pour relancer la croissance, je sais pas, enfin bref.
Oui, bonjour à tous, bonjour Daniel, c'est Didier du Jura. Alors dimanche 13 janvier, journal de 13h sur France Inter, les journalistes s'indignent sur une manifestation et un incendie en Corse. Réaction de colère de tous les élus. C'est la plus grosse information du journal. On s'indigne. Mais quid du nouveau traité européen, par exemple? Sarkozy et son gouvernement qui s'assied sur le référendum de 2005, et donc sur la démocratie, en le faisant passer au Congrès, c'est-à-dire en imposant un texte qui a été rejeté par le peuple français. Bon, sans parler du PS qui approuve sans le dire. Sur ce sujet-là, on les attend, les journalistes, avec leur indignation. Eh bien, il n'y a personne. Radio Paris ment. Pas d'information, pas de connaissance, pas de connaissance, pas de conscience, pas de conscience, pas de citoyen. Elle est loin, la France démocratique. Le clivage qui grandit entre le peuple et le gouvernement, et donc les journalistes, n'augure rien de bon. La violence qu'il va engendrer est inévitable. Sera-t-il temps, messieurs les journalistes, si vous en subissez les effets, de vous indigner? Salut à tous.
Bonjour, un message d'un habitant de la Manche, en Normandie, Philippe Cléris à Udiménil. Je voudrais juste relever un détail, moi, qui m'amuse beaucoup dans cette histoire d'OGM, c'est que le président de la fameuse autorité qui a émis des doutes sérieux sur le maïs BT de Monsanto n'est autre que Jean-François Legrand, que nous connaissons bien ici, dans la Manche, sénateur UMP de la Manche, président du Conseil Général, ancien visiteur commercial en produits phytosanitaires et vétérinaires. Monsieur Legrand connaît particulièrement bien ses anciens amis. Voilà, donc notamment les lobbies agro-industriels, les différentes lobbies qui travaillent ce plouquistan manchot du Grand Ouest, entièrement dévoué à l'agriculture intensive, malgré néanmoins de forts représentants de la Confédération paysanne, puisque la Manche est aussi le département de Monsieur Dufour. Voilà, en tout cas moi je rigole bien que notre nouveau Monsieur Jourdain des OGM fasse un tel tour à ses anciens petits copains. Moi je trouve ça très très drôle. En tout cas, courage José, on les aura. Voilà, c'était Philippe de la Manche, Normandie.
Bonjour les enfants, c'est Johan dans le Loir-et-Cher. Voilà, je vous téléphonais, j'appelle jamais, c'est la première fois. Pour vous dire que jeudi soir, moi j'étais 24 rue de la Banque, je suis passé avec ma copine. Et quand on est arrivé, il y a monsieur Hollande qui est arrivé, qui a pointé son petit museau, qui est resté là 5-10 minutes pour faire bien devant les caméras. Et puis qui est reparti, comme ça, gentiment. Alors ça fait drôlement rire que des gens comme ça passent juste pour faire bonne figure devant les caméras, bien face aux caméras, et pas vraiment prendre part au dialogue et à ce qui est réfléchi. Voilà, mais bon, quand même, il y a une bonne avancée, on a gagné, c'est content. Je suis bien content, merci à tous, salut.
Bonjour Monsieur Mermet, bonjour à l'équipe et bien sûr aux auditeurs. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je profite de votre antenne pour passer un message personnel. Je travaille dans une exploitation viticole et nous avons actuellement 50 000 hectolitres de vin rouge à vendre, à écouler. Et je me disais que nous recherchons un représentant. Et je me disais que nous avons pensé qu'entre un TGV et quelques centrales nucléaires, M. Sarkozy pouvait penser à nous. Ce serait vraiment sympathique de sa part. Et nous en serons bien entendu reconnaissants. Donc, Monsieur le Président, je vous remercie par avance et n'hésitez pas à nous contacter. Merci.
Allô, bonjour. Je voulais déjà vous remercier pour l'émission d'hier et remercier surtout tous les courageux jeuneurs. Alors, quitte à passer pour une rabat-joie, je voudrais quand même donner une information. Il faut savoir que le lobby des OGM a reçu des assurances de soutien pour l'avenir. Le gouvernement a annoncé son intention de mettre en place un plan d'investissement dans les biotechnologies végétales de 45 millions d'euros, soit une multiplication par 8 des budgets actuels. Et oui, ils reculent sur les OGM et ils avancent sur les nano-aliments. Alors, il faut savoir aussi que ces nano-aliments sont déjà sur le marché. Aucune étude sérieuse n'a été faite sur leurs conséquences sur la santé. On nous les fait déjà manger de force et cela, on ne pourra pas aller les faucher. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur les nano-aliments, vous pouvez lire la dernière revue de Nature et Progrès où il y a une personne des Amis de la Terre à Montreuil qui a écrit un article qui explique bien pourquoi il faut là aussi réclamer un moratoire. Donc, vous voyez, on a encore du pain sur la planche. Allez, bon courage à tous. Au revoir.
Eh oui, on a du pain sur la planche, eh oui, on n'a pas le cul sorti des ronces. Tout ça, c'est des expressions très courantes qu'on trouve, qu'on entend dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, où il y a eu des messages pour s'indigner contre la censure, contre l'interdiction du monde diplomatique. Eh oui, voilà 2 mois qu'on était sans le monde diplomatique, et ça n'a pas échappé à vos fines oreilles. Que se passe-t-il? On n'entend plus l'extraordinaire équipe du monde diplomatique. Ben non, c'était les hasards, tout simplement, du calendrier, des voyages et des reportages, mais consolez-vous, aujourd'hui, avec Renaud Lambert, l'animateur, il va être déguisé en animateur pendant 1 heure, Renaud Lambert, on va retrouver toute l'équipe du monde diplomatique au grand complet, Ignacio Ramonet, Maurice Lemoine, Dominique Vidal, Serge Halimi et François Cusset. Vous vous souvenez, François Cusset, l'auteur de la décennie Le Grand Cauchemar des années 80, qui nous avait donné la matière d'une série d'émissions l'an passé. Voilà, ils sont tous là autour du micro de la base, si j'y suis, et ils vont nous parler de l'Afrique, de l'Amérique latine, et notamment, évidemment, de la libération des otages. Avec Dominique Vidal, on va parler du Proche-Orient, de la visite de George W. Bush au Proche-Orient, le pacificateur George W. Bush. Et puis aussi, avec Serge Halimi, on va parler déjà, mais oui, des élections américaines. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Alors, bonjour, Daniel. Je vous téléphonais parce que nous, les immigrés, on est fatigués, là. Il faut parler sur nous. Parce que là, on est vraiment fatigués. Hein? Des rafles, jusqu'à quand? Hein? Allez, ciao.
Eh bien, voilà, c'est Yves de Nice. Je vous téléphone d'une part pour vous dire que c'est seulement hier soir que j'ai enfin appris le nombre de fois que notre président bonimenteur a prononcé l'expression politique de civilisation. Combien de fois a-t-il dit politique de civilisation au cours de sa conférence de presse le 8 janvier ? Eh bien, 41 fois, je l'ai appris hier sur France 3. Mais aucun journal que j'ai lu ne l'avait mentionné, par déférence. 41 fois, c'est aussi ridicule que les 48 fois où notre président Sarkozy avait prononcé le « moi-je » ou « je » lors d'une précédente conférence de presse. Ça se rejoint. Il avait inventé ce gadget de politique de civilisation. Il fallait à tout prix qu'il nous le rabâche et qu'il se gargarise avec ça. Bon, trêve de plaisanterie. Le repère de là-bas, si j'y suis, de Nice, se réunira au Wobble, W-O-B-L-E, au Wobble, 2 avenue Saint-Jean-Baptiste, à Nice, mercredi 16 janvier à 19h. Donc tous les auditeurs de là-bas, si j'y suis, de la région de Nice, peuvent venir au Wobble de l'avenue Saint-Jean-Baptiste le 16 janvier, mercredi, donc dans le mercredi 16 janvier, à 19h, nous vous y attendons, nous déciderons ensemble, démocratiquement, du sujet que nous traiterons. Bonjour à tous les auditeurs et à toute l'équipe.
Tous les acteurs parlent de paix, mais aucun ne veut ou ne peut la mettre en œuvre.
Un Bush suivi d'un Clinton, et puis après, un Bush suivi d'une Clinton.
Je dirais simplement qu'on ne peut pas comparer Chavez et Uribe. Il faut le dire, c'est pas suffisamment dit, le président Alvaro Uribe est un président qui est lié à l'extrême droite.
L'Afrique continue avec ce destin d'être exploitée, mais...
Dans certains états du Midwest, qui peut faire sourire, 10 à 20% de la population n'a pas de dents. De dents.
Et on retrouve François Cuisset.
Maurice Lemoine, je me tourne vers vous. Serge Halimi, on aura peut-être besoin d'une petite note de bas de page. Ou Ignacio Ramonet, je me tourne vers vous. Dominique Vidal.
Et ça, ce n'est qu'un aperçu. Avec Renaud Lambert, là-bas, si j'y suis. Avec l'équipe du Monde diplomatique, pas si diplomatique que ça.
Flight number 2. Arriving from New York.
Très content de retrouver l'équipe du Monde diplomatique autour du sommaire du numéro de janvier 2008. Et on commence, Ignacio Ramonet, avec vous, avec une bonne nouvelle. Alors, elles sont pas si nombreuses, on va en profiter. Un nom aurait retenti sur le continent africain. Expliquez-nous tout.
Oui, non, c'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça montre, disons que l'Afrique, aujourd'hui, enfin, un certain nombre de pays africains, l'Afrique est en mesure de refuser des propositions européennes, alors que tant de fois nous avons connu l'Afrique, embarquée dans des projets qui ne servaient finalement que les intérêts de l'Europe ou d'autres puissances. Hein. Ce qui s'est passé à Lisbonne en particulier, en décembre dernier, où il y a eu le sommet, qui était le second sommet, Union européenne-Afrique, eh bien, a été très important parce que l'objectif principal de ce sommet, de cette rencontre entre les 27 et un certain nombre de chefs d'État, un très grand nombre d'ailleurs de chefs d'État ou chefs de gouvernement africains, c'était de contraindre les pays africains à signer des nouveaux traités commerciaux. Et l'idée, c'est que les marchandises africaines, jusqu'à présent entrées dans d'un pays de un certain nombre de pays sans droit de douane, et maintenant l'idée, c'est que désormais, si les marchandises africaines entrent sans droit de douane en Europe, les marchandises européennes entrent également sans droit de douane en Afrique. C'est ça l'objectif. Et c'est ça les accords de partenariat économique. Sous couvert d'un certain jargon de solidarité avec l'Afrique, en réalité, l'objectif c'était d'inonder les marchés africains de produits européens. Or, c'est précisément à ce projet-là qu'un certain nombre de pays ont dit non. Notamment, d'ailleurs, le président du Sénégal, qui a été un des premiers à protester, Abdoulaye Wade, qui est pourtant un libéral, mais qui a compris que ce type d'accord allait se traduire par le démantèlement d'un certain nombre disons, d'embryons, d'entreprises ou d'usines ou de sources de fabrication ou même de destruction de produits agricoles existantes en Afrique. Ce qui est intéressant dans cette fronde contre les accords de partenariat économique avec l'Afrique, c'est de voir que maintenant, pour des raisons qui tiennent aussi, si vous voulez, à l'arrivée en Afrique d'autres puissances, il y a désormais, pour des raisons égoïstes, mais il y a aussi la présence des États-Unis, et il y a la présence de la Chine. Donc, de ce point de vue-là, l'Afrique continue avec ce destin d'être exploitée. Mais avant, il n'y avait qu'un seul exploiteur. Il y en a en quelque sorte trois maintenant. Ce qui donne une marge de manœuvre qui a permis précisément à l'Afrique de dire non en tenant compte de ses intérêts, des intérêts des Africains et non pas seulement des objectifs ou des ambitions des pays européens.
Alors, en France, on est bien placé pour savoir que dire non parfois ne suffit pas. On nous a demandé notre avis récemment autour d'un traité constitutionnel. La majorité des Français ont dit non. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que, de toute évidence, les Français ont dû se tromper puisque on propose de faire passer un traité modifié qui finalement dit oui à quasiment le même texte. Est-ce qu'il y a espoir que ce non africain tienne comme un non ou que finalement, au fur et à mesure des nouvelles négociations, il se transforme en oui?
Alors, les négociations vont s'ouvrir donc fin janvier, en février prochain. Sans doute, l'Europe va vouloir revenir en fonction, disons, de cette loi internationale qui favorise ses intérêts. Mais je pense que l'Afrique résistera. Je pense que l'Afrique résistera et que le contexte aujourd'hui lui permet de non seulement finalement utiliser ce nom comme une sorte de révolte ponctuelle pour affirmer, médiatiquement une personnalité, etc., mais aussi traduire cette fronde par une avancée politique qui permette en particulier de protéger un certain nombre de secteurs économiques indispensables pour l'avenir du développement africain.
On est toujours avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du sommaire de janvier 2008. Maurice Lemoine, je me tourne vers vous. Puisqu'il y a eu un grand événement récemment, la libération d'otages aux mains des FARC.
Elles ont donc retrouvé la liberté, et cela après des années de captivité. Clara Rojas et Consuelo González ont quitté la jungle hier soir, quelques minutes après 20h. Elles sont apparues accompagnées par des membres des FARC devant les membres du comité international de la Croix-Rouge qui les attendaient. Depuis, elles ont rejoint tout d'abord Caracas au Venezuela, accueillies par un président Chavez qui, avec le succès de cette médiation, a retrouvé un vrai crédit dans ce dossier.
Allô, monsieur le président, c'est Clara Rojas. Oui, monsieur. Monsieur le Président, merci pour votre aide.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On les a un petit peu attendus, quand même, ces otages.
Alors, c'est encore Chavez. Oui, alors on a attendu. C'est vrai qu'on a fait de cet événement un grand événement médiatique. Alors, il y a une avancée considérable. Ce qu'on peut observer, ce qu'il faut souligner, c'est que pour la première fois depuis 2001, on a une avancée dans cette affaire. On a dit parfois à tort que c'était la première fois que les FARC libéraient unilatéralement des prisonniers d'otages. C'est pas tout à fait vrai, puisque le 28 juin 2001, les FARC avaient libéré unilatéralement 242 policiers et militaires. Et c'est important de rappeler cette date parce que c'est précisément à l'époque, parce que le gouvernement n'avait fait aucun geste en échange, que les FARC avaient décidé. Avait annoncé que puisque ils allaient séquestrer des membres de la classe politique, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé. Hein, alors on peut évidemment, on doit condamner cette séquestration de civils, mais les FARC avaient annoncé que c'était une mesure politique, qu'ils séquestreraient des membres de la classe politique, jugés aussi scandaleusement indifférents au drame de la guerre vécu par le peuple, qu'au sort des soldats combattants dans les rangs de l'armée. Bon, donc c'était une décision qui a été mûrement réfléchie. Quel est le débat au-delà, évidemment, du plaisir qu'on peut avoir à voir des gens retrouver leur liberté? C'est que les FARC ont été placés, après le 11 septembre 2001, sur la liste des organisations terroristes. C'est une classification que les FARC ont toujours refusé. Et indépendamment du fait qu'on doit effectivement ou qu'on peut condamner leur méthode, il est vrai que les FARC, de mon point de vue en tout cas, et là je n'engage que moi en disant ça, ne sont pas un groupe terroriste. C'est un mouvement d'opposition armée aux méthodes extrêmement contestables. Or, en plaçant cette organisation armée au sein des organisations terroristes, évidemment, on a instauré un blocage aux discussions et aux négociations possibles. Et pour la première fois avec le président Chavez, les FARC ont retrouvé un interlocuteur. Moyennant quoi, ça se solde par un résultat extrêmement positif. Évidemment, pour le gouvernement colombien, ça a une conséquence. C'est que s'asseoir en face des FARC, c'est effectivement reconnaître qu'elles ne sont pas terroristes, mais que ce sont des belligérants. Hein, tout l'enjeu, il est là. Hein, il faut bien comprendre que tout l'enjeu est là. C'est un enjeu politique. La question qui se pose, c'est est-ce que les FARC, d'une certaine manière, vont considérer que de cette manière, elles ont été reconnues comme belligérantes. Après tout, c'est possible. Et est-ce que ça va assouplir leur position? Ou est-ce qu'elles vont se cantonner à dire « Notre interlocuteur ne peut être que le gouvernement colombien ?» Bon. Là, j'ai pas de réponse à cette question. Juste la chose qu'on sait et que tout le monde sait depuis longtemps, c'est que seule une négociation peut faire sortir cette situation tragique du stade où elle en est. Le président Chavez vient de proposer, ça évidemment, ça va faire scandale, de sortir les FARC et l'Armée de Libération Nationale de leur statut de terroriste. Je pense que c'est une demande intelligente, hein, parce que ce statut de terroriste a produit un effet cliquet. Une fois qu'on est terroriste, on peut plus revenir en arrière, on peut plus discuter. Bon. Et évidemment, une première négociation autour de l'affaire des otages pourrait également être un premier pas pour des négociations de paix en Colombie, parce que il n'y a pas de conflit qui ne se termine pas à la table des négociations. Ça sera en Colombie comme ailleurs, ça sera en Colombie comme en Amérique centrale. Il faut négocier, il faut discuter. Le problème, l'un des problèmes en tout cas, et le problème grave en ce moment, c'est que le président Álvaro Uribe, qui est en difficulté à l'intérieur de la Colombie, parce que lié aux paramilitaires, dans un scandale qu'on appelle le scandale de la parapolitique, où tout est en train de sortir, n'a pas du tout intérêt, ne veut pas négocier avec la guérilla, et a intérêt à maintenir cette situation de tension, y compris parce que la gauche démocratique est en train de monter en Colombie. Hein, c'est-à-dire que lors des dernières élections, des grandes villes comme Cali, Medellín, Bogota ont été gagnées par le pôle démocratique alternatif, et que donc le président Uribe, pour remobiliser ses partisans, doit maintenir un climat de confrontation. D'où sa réticence évidente à négocier un échange humanitaire.
Et lui aussi chercherait à faire accepter la possibilité de sa réélection.
Lui aussi. Alors pour le moment, ça n'inquiète personne. J'avoue que il y aurait une contradiction à la fois avoir fait preuve de beaucoup de mansuétude sur la possible réélection de Chavez et une possible réélection d'Uribe, puisqu'il faudrait là aussi modifier la Constitution. Je dirais simplement qu'on ne peut pas comparer Chavez et Uribe. Il faut le dire, c'est pas suffisamment dit, le président Álvaro Uribe est un président qui est lié à l'extrême droite. Le président Chavez est un président démocrate qui a un projet de gauche, et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas chez nous, on ne confond pas l'extrême droite et la gauche.
Eduardo Galeano a inventé un mot, démocradura.
Démocrature.
Démocratie et dictature.
Pues a ver, aquí, en esta zona y en el país, hoy estamos en una consolidación de un proyecto de Estado paramilitar.
Ici, dans cette région, mais dans le pays, on est dans la consolidation d'un modèle paramilitaire.
La stratégie paramilitaire en Colombie est née pas pour attaquer une armée populaire, une guérilla, mais pour attaquer une manière de penser, c'est-à-dire les sympathisants du communisme.
Il va falloir qu'on connaisse la vérité.
Ecos de Colombia.
Et comment on peut expliquer qu'il y a 40 sénateurs des groupes de Uribe en prison?
Nous sommes toujours avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du sommaire du numéro de janvier 2008. Et je me tourne vers vous, Dominique Vidal. En ce moment, le président américain George Bush est en tournée au Proche-Orient. Il est arrivé en Israël mercredi dernier, je crois. C'est la première fois qu'il y va depuis son arrivée au pouvoir en 2000. Et l'objectif de sa tournée, eh bien, c'est de relancer un processus de paix sur la base de cette conférence d'Annapolis.
L'OTAN espère-t-il de faire avancer les négociations de paix? De fait, Ehud Olmert, le Premier ministre israélien, et Mahmoud Abbas, le président palestinien, se sont rencontrés longuement hier et peuvent donc affirmer qu'ils travaillent dur. Mais ces deux hommes font face à d'énormes difficultés politiques internes. Mahmoud Abbas ne contrôle pas Gaza, où c'est le Hamas qui tient le haut du pavé. Quant à M. Olmert, il pourrait perdre sa coalition gouvernementale d'ici la fin du mois, avec la publication d'un rapport très dur sur la guerre au Liban l'année dernière. Alors M. Bush vient surtout exprimer son soutien au président palestinien et au Premier ministre israélien.
Oui, c'est effectivement l'objectif qu'il affirme.
Reste à savoir si c'est vraiment l'objectif. Moi, ce qui me frappe, c'est que la tournée du président Bush au Proche-Orient se situe vraiment dans la droite ligne de la conférence d'Annapolis et de la conférence des donateurs qui s'est tenue en France après Annapolis. C'est-à-dire, il s'agit pour un pouvoir qui s'est piégé dans les pires des guerres, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, puis la guerre israélo-palestinienne qui n'a pas cessé, d'essayer de mettre en scène le théâtre de la paix. Et d'une paix à laquelle il s'est pas intéressé. Comme vous dites, c'est sa première visite, ce qui est quand même formidable. Pourquoi c'est pas crédible? C'est pas parce qu'au monde diplomatique, on n'aime pas quand les choses bougent. On aimerait que les choses bougent, bien sûr. Mais ça n'est pas crédible pour quatre raisons. La première, il ne s'agit pas d'une démarche internationale dans le cadre et sur la base des résolutions des Nations Unies. Donc, il s'agit d'une initiative unilatérale. Une de ces initiatives dont on sait qu'elle ne fonctionne pas dans le monde d'aujourd'hui, parce que le monde ne se résume pas à la superpuissance américaine. Deuxièmement, la démarche du président Bush, et Annapolis l'a montré d'une manière éclatante, ne comporte aucune des bases d'une paix durable, c'est-à-dire la définition de ce que serait un véritable État palestinien indépendant, l'affirmation de son territoire, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui a été occupé par Israël en 1967, dans la guerre des six jours, la question de la capitale, qui ne peut être qu'à Jérusalem-Est, la question des colonies qu'il faut démanteler, la question du droit des réfugiés, soit au retour, soit à une compensation. Bref, tout cela est absent. D'ailleurs, si vous lisez le texte de l'engagement d'Annapolis, vous verrez que c'est un texte qui mérite de figurer dans les guides Guinness des records du Proche-Orient. Jamais, en 70 ans, et quelques de conflits ouverts, il n'y a eu un texte aussi vide, dans lequel aucun des éléments d'une paix juste, durable, n'apparaissait. Troisième raison, il n'y a pas de calendrier. Parce qu'évidemment, on parle de l'État palestinien en 2008, mais enfin, les mêmes parlaient de l'État palestinien en 2005, au moment de la feuille de route. On est dans la méthode Coué. Ça y est, la paix arrive. Mais non, il n'y a pas de calendrier. Or, aujourd'hui, l'expérience au Proche-Orient, et pas seulement, on vient d'en entendre parler à propos de la Colombie, et il y a beaucoup de conflits qui se situent dans la même dimension, c'est qu'on ne peut pas avoir des bases de règlement d'un conflit sans un calendrier obligatoire, contraignant pour les parties. Sinon, on reste dans une espèce de répétition du conflit. Et puis, il y a la dernière, la quatrième raison, et sans doute, je dirais la principale, c'est que les deux acteurs les plus concernés par la démarche du président Bush ou bien n'ont pas les moyens ou bien n'ont pas la volonté d'aller réellement d'un pas assuré en avant. Mahmoud Abbas, le président palestinien, n'en a pas les moyens. Le défi que représente pour lui le Hamas, pas seulement à Gaza, aussi en Cisjordanie, c'est un défi qui ne lui donne pas la marge de manœuvre nécessaire pour imposer des compromis à un peuple qui n'a fait que subir jusque-là ce type de démarche. Quant à Ehud Olmert, je ne sais pas s'il en a les moyens, parce que lui aussi, il est, je crois, à 3% de cote de popularité, et comme la marge d'erreur des sondages en Israël, c'est 4%, peut-être qu'il est à moins 1%.
Il aurait une dette de popularité. Alors.
Voilà, il a une dette à l'égard de nous tous et des Palestiniens en premier lieu. Mais surtout, il n'en a pas la volonté. C'est-à-dire, à peine il est rentré d'Annapolis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé publiquement la construction de 306 nouveaux logements dans la colonie de Har Hamad. Donc on est vraiment dans un théâtre dont tout le monde, tous les acteurs parlent de paix, mais aucun ne veut ou ne peut la mettre en œuvre. Au fond, et je résume comme ça la chose, je pense qu'il s'agit d'une opération de lifting pour George Bush, avec deux hypothèses possibles, parce que les liftings, on peut les faire simplement pour ravaler la façade d'une administration qui, quand même, s'est engagée pendant 4 ans dans toutes les catastrophes possibles et imaginables. Donc, c'est une manière de sortir un peu la tête haute avec un bilan un peu moins catastrophique, en tout cas apparemment, ou bien avec une visée plus offensive. Il reste sur la table, même si beaucoup n'y croient pas, des projets d'opérations militaires contre l'Iran. Et c'est clair que pour ces projets-là, le fait que George Bush puisse se targuer d'avoir été au Proche-Orient et d'avoir un consensus parmi les régimes arabes dits modérés, ça n'est pas négligeable en cas de frappe contre l'Iran. Donc vous voyez, on est dans un théâtre de la paix, mais qui, comme toujours quand il s'agit de théâtre, dissimule derrière les coulisses des risques de guerre.
On continue avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du sommaire de janvier 2008. Serge Halimi, j'ai une question à vous poser, quelque chose qui me préoccupe beaucoup. J'aimerais savoir si vous avez été ému par ces larmes d'Hillary Clinton, dont on dit qu'elle lui aurait valu le regain de popularité qui lui a fait remporter une primaire la semaine dernière.
You know, this is very personal for me.
Vous savez, c'est très personnel pour moi.
It's not just political, it's not just public.
C'est pas uniquement une question de politique.
I see what's happening.
Je vois bien ce qui se passe.
And we have to reverse it.
Il faut que nous fassions quelque chose.
And some people think,
il y a des gens qui pensent que
elections are a game. They think it's like who's up or who's down.
Les élections, c'est un jeu. Regardez qui monte, qui baisse.
It's about our country. It's about our kids' futures.
Mais c'est notre pays qui est en jeu. C'est le futur de nos enfants.
It's really about all of us together. You know, some of us put ourselves out there and do this.
En fait, ça nous concerne tous. Il y en a parmi nous qui montent au front contre des obstacles assez difficiles. Odds.
And we do it, each one of us, because we care about our country.
Et si nous le faisons, c'est parce qu'on tient à notre pays.
Bah évidemment, j'ai été ému comme tout le monde. C'est-à-dire, enfin, dans mon cas, peut-être assez peu. Mais ce qu'il faut dire dès le départ, parce que là, on ne fait que commencer à parler de l'élection primaire. Il y a eu une consultation en Iowa le 3 janvier et l'élection américaine sera décidée dans les premiers jours de novembre. Donc on a encore le temps de beaucoup parler de cette élection. Et je pense que d'ici un mois ou deux, les larmes d'Hillary Clinton auront été oubliées par presque tout le monde. Peut-être pas par les républicains lors de l'élection générale, s'ils veulent insister sans en avoir l'air sur le fait que l'élection d'Hillary Clinton signifierait que pour la première fois une femme arrive à la Maison Blanche. Mais à ce stade, quand on fait le bilan de l'Iowa et du New Hampshire, qui sont les deux primaires qui ont eu lieu, enfin c'était pas exactement une primaire en Iowa, mais au New Hampshire c'était une primaire. Ce qu'il faut dire, c'est que 98% des électeurs américains n'ont pas voté. Donc on peut gloser tant qu'on veut, mais 98% des Américains ne se sont pas prononcés et tous les candidats majeurs restent en lice. À l'heure actuelle, vous en avez au moins deux, pour ne pas dire trois, côté démocrate. Par ordre alphabétique, vous avez Clinton, Edwards et Obama, et côté républicain, vous en avez au moins quatre. Giuliani, Cabi, McCain et Romney. Et les résultats qu'on a constatés en Iowa et au New Hampshire ne sont pas forcément significatifs, puisque vous avez des candidats qui ont réalisé un mauvais score en Iowa et au New Hampshire, mais qui ne faisaient campagne ni dans un État ni dans l'autre. C'est le cas, par exemple, de Rudy Giuliani, qui est peut-être l'un des favoris dans le camp républicain, et qui est aussi celui qui a le plus d'admiration et de fascination pour Nicolas Sarkozy, puisqu'il évoque souvent en campagne sa lecture du livre de Nicolas Sarkozy. Naturellement, pour les républicains, Sarkozy c'est un exemple, parce que il succède à un président de son camp impopulaire et il arrive à être élu. Donc les républicains qui succèdent à George Bush avec une popularité très faible et que tout le monde donne perdant à l'heure actuelle, aimeraient bien renouveler en quelque sorte cette performance. Alors, Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, encore compte tenu du fait que 98% des Américains n'ont pas voté et qu'on est appelé à connaître un certain nombre de bouleversements, de coups de théâtre, de surprises, c'est qu'il y a une profonde aspiration au changement qui s'exprime aux États-Unis, que le président sortant est donc très impopulaire, que la guerre d'Irak est impopulaire, qu'au sommet de tout cela, il y a aussi une profonde inquiétude économique et sociale, que les États-Unis risquent d'entrer en récession dans les mois qui arrivent. Et cette aspiration au changement est en quelque sorte servie par le fait que ce sera la première élection depuis 1928 au cours de laquelle aucun sortant n'est candidat. Ni président sortant, ni vice-président sortant. Donc par la force des choses, il y aura un changement. Quel changement? On ne sait pas. Là encore, peut-être que le non risque de déboucher sur un oui. À ce stade, quand on entend un peu le discours médiatique, on a l'impression que cette campagne se résume à un certain nombre de caricatures. Chaque candidat n'a qu'une caractéristique. Alors Clinton est une femme, Obama est un noir, Huckabee est un ancien prêcheur, Romney un mormon, et Giuliani, si on peut ajouter Giuliani, un républicain qui a divorcé deux fois. Ce qui est un peu insolite dans le camp républicain, où on est très attaché aux valeurs morales traditionnelles. Donc les Américains sont impatients de se débarrasser de George Bush, ils ne savent pas exactement qui les en débarrassera, et l'une des candidates qui semble se dégager dans le camp démocrate, Hillary Clinton, est à la fois appuyée par son mari, qui a été quand même président pendant 8 ans, et si elle était élue, la signification symbolique la plus forte peut-être de son élection, c'est que depuis 1989, vous auriez eu à la présidence des États-Unis un Bush suivi d'un Clinton, et puis après un Bush suivi d'une Clinton. Donc vous avez à l'heure actuelle une campagne qui va vraiment démarrer. On pense que les choses seront assez largement fixées lors du Super Tuesday, c'est-à-dire le 5 février prochain, parce que là, vous allez avoir 24 États qui vont voter d'un coup. Et là, il s'agira plus uniquement d'indications de sondages ou de quelques milliers d'électeurs, mais de millions d'électeurs. Et vous aurez le même jour des États aussi différents que la Californie et New York qui se prononceront. Donc il est vraisemblable qu'à ce stade, on sera plus fixé. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on va assister dans les prochaines semaines, en tout cas, à une débauche d'argent absolument invraisemblable. Parce que si vous pouvez faire campagne dans l'Iowa en croisant chaque électeur, en allant dans les coffee shops, en serrant des mains, etc., naturellement, quand le même jour, vous devez faire campagne à New York et en Californie et dans 22 autres États, ça n'est pas possible. Donc comment vous faites campagne? Essentiellement, c'est la publicité. Et là, il y a une débauche d'argent. Alors évidemment, on dit ça à chaque élection, mais à chaque élection, ça devient pire. Vous avez Hillary Clinton qui a déjà levé 100 millions de dollars. Vous avez Obama qui a levé 80 millions de dollars. Romney, 60 millions, dont le tiers de sa propre fortune, parce que c'est une très grosse fortune. Vous avez Giuliani qui a levé 40 millions. Et tout ça débouche sur une espèce de folie de publicité politique qu'on imagine mal en France, puisque rien que dans l'Iowa, Hillary Clinton a diffusé 10 488 spots promouvant sa candidature, pendant que Romney en diffusait 9 841. Alors on dira, bon, quelque chose, il y a peut-être une forme de moralité politique dans tout ça, puisque les deux candidats ont été battus dans l'Iowa, mais lors des élections qui risquent d'intervenir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, cette débauche d'argent jouera un rôle, et les candidats qui n'ont pas d'équipe de professionnels dans chaque État et qui n'ont pas les moyens d'avoir en quelque sorte un message payant qui pourrait contredire le message des journalistes et les préférences des journalistes risquent d'être dans une position particulièrement difficile.
Dominique Vidal.
Ce qui me frappe beaucoup, mais c'est une question pour Serge, c'est quand on regarde la télévision, on écoute la radio, on lit les journaux en France, on a l'impression d'un flot de commentaires. Mais il n'y a pas de contenu. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien que Serge nous dise, est-ce que Obama, par exemple, qu'on présente, à juste titre certainement, comme quelqu'un de neuf, parce qu'il est métis, parce qu'il a un autre profil politique, un autre âge, une autre manière de voir les choses, sans doute une autre manière de voir le monde aussi, visiblement. En quoi est-ce qu'il diffère, par exemple, d'Hillary Clinton sur le plan politique, que ce soit le plan politique intérieur ou extérieur?
La grosse différence qu'on peut tout de suite signaler, c'est que Obama a eu le courage en 2002 et en 2003 de s'opposer à la guerre d'Irak, à laquelle Hillary Clinton a été très très associée, puisqu'elle a soutenu cette opération dès le départ. Donc ça, c'est une grosse différence. Mais à l'heure actuelle, on est dans une campagne où les gens insistent essentiellement sur un mot, sur un thème. Parce qu'on essaie de séduire des électeurs qui ne connaissent pas bien les candidats. Donc, vous avez Obama qui dit « changement ». Et Hillary Clinton qui a dit « expérience ». Et c'est vrai qu'Obama, ça aurait été le changement. Hillary Clinton, c'était l'expérience. Alors, quand Obama a remporté les primaires de l'Iowa, on s'est dit « ah ben, changement, c'est peut-être mieux qu'expérience ». Alors, Hillary Clinton a dit « changement ». Mais le changement, c'est moi. Le changement, c'est moi parce que, précisément, j'ai l'expérience de la manière dont on change les choses.
Et c'est un peu à travers ces expressions-là qu'on distingue une campagne. Pour le reste, les différences entre les candidats démocrates, à l'exception du dossier de l'Irak, mais même là-dessus, les choses sont en train de changer, parce que naturellement, là, le changement pour Hillary Clinton, c'est vrai, quoi. Elle est beaucoup moins favorable à la guerre d'Irak qu'elle l'était il y a 2 ou 3 ans. Donc là-dessus, voilà, elle a mis le temps. Donc là-dessus, les choses sont en train de changer. En d'autres termes, sur les grands dossiers, il y a un rapprochement des positions des candidats démocrates et des candidats républicains qui fait que ces distinctions ne sont pas apparentes. S'il y a une distinction qui est réelle dans le camp démocrate, c'est autour de la campagne de John Edwards, qui lui est très actif dans tout ce qui est dénonciation du rôle de l'argent en politique. Des lobbies, de l'argent en politique, des politiques commerciales américaines, qui sont des politiques libre-échangistes, et lui, il est favorable à une orientation beaucoup plus protectionniste. Mais à l'exception de ces nuances, il n'y a pas d'énormes différences, et on ne sait pas d'ailleurs ce que la campagne générale réservera, parce que côté républicain, il y a aussi des positions qui semblent maintenant se rapprocher.
François Cusset ?
Ouais, il faut ajouter que la question du contenu dans une élection américaine est piégée par avance, puisque personne n'est obligé de tenir ses promesses. On peut en prendre pour exemple l'un des thèmes principaux en dehors de la politique extérieure, qui est bien sûr la couverture santé universelle promise par les deux candidats démocrates principaux, enfin Hillary Clinton et Barack Obama, sachant donc, comme on sait, que 60 à 70 millions d'Américains n'ont aucune couverture santé. On dit que dans certains États du Midwest, ce qui peut faire sourire, 10 à 20% de la population n'a pas de dents. C'est-à-dire que les personnes âgées n'ont pas de quoi se faire remplir. Bon, voilà, on est dans un état quand même, c'est le tiers-monde américain. Ils promettent tous les deux une couverture santé universelle. Or, Bill Clinton, lorsqu'il a été élu, c'était un des points favoris de son élection, qui lui a valu l'élection au moment de la crise économique du début des années 90. Et le projet de couverture santé universelle devait être porté à la Maison-Blanche par une certaine Hillary Clinton, qui a enterré effectivement le dossier assez vite. Alors, il reste à savoir si elle voulait vraiment le porter plus loin que prévu, elle était effectivement idéaliste, et que c'est pour des raisons politiques. Enfin, en tout cas, on ne peut pas faire confiance à ce genre d'effet d'annonce. Et malheureusement, on est piégé, effectivement, dans une élection qui est une élection de forme, d'artifice, d'affect, et non pas, hélas, à des discussions de contenu.
Juste une chose, ce discours sur le changement a aussi connaît un handicap majeur, qui est que il est porté par des contributions financières de grands groupes industriels, d'industries pharmaceutiques, qui n'a aucun désir de changement. Donc vous essayez en quelque sorte de faire financer vos promesses de transformation par les sociétés les mieux installées dans la société américaine. Et dès que vous êtes élu, vous vous retrouvez avec un congrès où la plupart des parlementaires prévoient déjà leur prochaine élection et sollicitent les contributions électorales de Wall Street, de Hollywood ou de l'industrie pharmaceutique, ce qui a tendance à tempérer leurs aspirations au changement.
C'est loin.
L'Amérique, l'Amérique, l'Amérique.
C'est dans ma chambre.
L'Amérique, l'Amérique, l'Amérique.
C'est là. Une tranche. Une tranche d'Afrique, une tranche d'Irlande, de Mexico et une tranche de France. Une tranche de France, une tranche de France, une tranche de France, une tranche.
Alors, nous sommes toujours avec l'équipe du Monde diplomatique autour du sommaire de janvier 2008. et on retrouve François Cusset. Alors François Cusset, vous êtes l'auteur d'un livre que l'on connaît bien, Là-bas si j'y suis, La décennie, le cauchemar des années 80. Vous nous aviez aidé à décrypter la décennie des années 80 en avril de l'an dernier. Alors ce mois-ci, vous donnez dans Le Monde diplomatique un papier sur lequel vous trouvez à critiquer tous ces gens qui finalement nous veulent du bien, tous ces gens qui s'intéressent à notre santé.
Ben, évidemment, le sujet a un caractère d'actualité brûlant puisque janvier c'est l'interdiction désormais de fumer dans tous les lieux publics en France, comme ça s'est fait dans beaucoup d'autres pays d'Europe dans les années précédentes. Le sujet a l'air a priori moins politique que ce dont on vient de parler, élections américaines, Venezuela, FARC et autres. En fait, il l'est au moins autant, au sens où la politique qu'on croit avoir disparu effectivement derrière les forces du marché ou les médias, et ben la politique cette fois-ci et dans nos poumons, nos capacités respiratoires, le risque qu'on fait courir à nos voisins, ou pas d'ailleurs, et en tout cas, ce type de loi. Alors, j'ai voulu partir en fait des unes de journaux et de magazines, enfin de grands médias en France, préparant la mise en place de cette loi, et expliquant que nous avons un capital santé individuel qu'il est impératif de protéger, non seulement de protéger, mais de gérer, et bien sûr d'optimiser. Donc on voit bien le langage effectivement entrepreneurial qui est derrière, qui lui existe depuis très longtemps, qui est quand même que un travailleur, un salarié en bonne santé est plus efficace qu'un salarié en mauvaise santé, sans compter qu'un Français en bonne santé coûte moins cher à la Sécu qu'un Français en mauvaise santé. Alors, au-delà de ça, moi, il me semble qu'il y a deux enjeux vraiment importants derrière cette interdiction de fumer dans les lieux publics. La définition de l'espace public et la définition politique de ce que c'est que le libéralisme, le néolibéralisme. La définition de l'espace public, d'abord parce qu'on a l'impression que finalement, l'espace public n'est plus que ce qui est réglementé par ce type de loi. Autrefois, c'était un espace où se rencontraient, se croisaient effectivement des catégories de la société. C'est désormais un espace légiféré, réglementé. Il faut noter, et c'est très important, que les gens qui parcourent cet espace public semblent soumis docilement à ces lois. Est-ce que vous avez vu beaucoup effectivement de fumeurs imposant leurs cigarettes depuis un mois? Non, enfin depuis deux semaines. Donc il semble qu'effectivement la loi soit définie comme ce qui fait espace public. Et en fait, cette loi, la loi, est désormais a pour moteur, pour principe théorique, la notion de risque. Qui est que finalement, ce qu'il faut légiférer, c'est le risque que chacun fait courir à lui-même, donc à la société, et entre les deux, aux autres, à ses frères humains, à ses prochains. Donc on voit bien là-dedans qu'il y a l'imputation individuelle, l'imputation à chaque individu de tout ce qui peut nous arriver, c'est-à-dire que finalement du cancer du poumon à la crise économique et pourquoi pas au bombardement de l'Iran, l'imputation est toujours individuelle, même si c'est une somme d'individus dont on pourrait, dont ce serait la faute. Ce qui permet, au passage, évidemment, d'évacuer la question des responsabilités en termes de conflits, de rapports de force. Et là, en l'occurrence, les rapports de force derrière la question de la cigarette, du tabac et de ce type de loi, ils sont nombreux, on le voit bien. Deuxième question, encore plus large en quelque sorte, si c'est possible, la définition du libéralisme. Et là, ça me paraît d'autant plus d'actualité que si on veut essayer de comprendre le régime présidentiel actuel de Nicolas Sarkozy, au-delà de l'anecdote et des ragots ou de sa vie privée, on est quand même tous, de gauche comme de droite, un peu embarrassés face à une double nature de ce régime qui est une nature clairement libérale ou néolibérale. Enfin, c'est le premier président libéral décomplexé de l'histoire de la Ve République, il y a aucun doute là-dessus, et les réformes qu'il propose vont dans ce sens. Et en même temps, évidemment, une tradition jacobine, voire monarchique dans sa façon de gouverner. Là, je crois qu'il est impératif de comprendre que le néolibéralisme est précisément la convergence de ces deux choses qu'on n'a pas l'habitude de penser ensemble. Et là, je me réfère à Michel Foucault, là aussi, et à sa théorie du libéralisme, où il dit « Le libéralisme comprend toujours pour une limitation de la politique au service du marché, donc un gouvernement qui finalement se restreint, se réduit et laisse les forces du marché l'emporter, ce qui serait une vision, disons, la vision classique du libéralisme et la critique marxiste traditionnelle du libéralisme. Cette vision est à courte vu parce que, dit Foucault, le libéralisme apparaît à une période historique, 19e siècle, où il s'agit aussi de définir ce qu'est la vie, comment la protéger, comment l'optimiser. C'est l'époque où apparaissent les premières politiques natalistes, où les gouvernements finalement entrent dans nos vies privées, dans la question de la reproduction, de la famille, de la santé. ce qu'on voit bien effectivement avec cette loi, et où pour la première fois le pouvoir politique n'a pas pour rapport à la vie un rapport seulement répressif, c'est-à-dire un droit de vie et de mort sur les gens, mais un rapport bienveillant, bien intentionné, là aussi voulant optimiser nos corps, nos vies, nos santé, mais imposant évidemment par là des normes très strictes, absolument monolithiques, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres rapports à la santé possibles, et la liberté individuelle commence par la liberté de prendre des risques, ce qui semble avoir été un peu oublié aujourd'hui. Encore une fois, tout ça, et la raison pour laquelle moi je m'y suis intéressé, me semble renvoyer, en tout cas pour la France, à une époque pas si ancienne, la décennie 80, où beaucoup de ces choses-là se mettent en place, à la fois une généralisation des politiques de santé, ou en tout cas de l'intervention du législateur dans nos corps, nos vies privées, notre rapport à la santé, y compris d'ailleurs, pas seulement du législateur, mais des grands groupes pharmaceutiques. Hein, c'est l'époque du boom de l'industrie pharmaceutique en France, en pleine crise économique. C'est aussi l'époque où on commence à parler de la santé en des termes, enfin, où les médias se saisissent de cette question. Hein. C'est l'époque des grands magazines de santé où on parle pas de santé, mais de forme. C'est-à-dire que il faut pas avoir la santé, il faut être en forme. Donc, la forme devient effectivement, on voit bien, est liée au sport, à la séduction, à ce que les historiens appellent le corps extérieur, c'est-à-dire pas le corps intérieur, c'est-à-dire l'épanouissement par le sport ou par la santé, mais le corps visible, le corps en une de magazines. Le corps là aussi au cœur de l'espace public sans rien derrière. Donc il suffit de remonter quelques années ou décennies en arrière pour voir se mettre en place un discours qui n'a plus d'alternative.
Donc à vous écouter, Nicolas Sarkozy en short serait un petit peu le Bernard Tapie que l'on voyait en collant fuchsia faire de la gym avec Véronique et Davina.
Bien suivi, n'est pas avec nous. Allez Bernard, c'est le jogging. L'entraînement, vous l'avez là. Hein, on respire bien, souffle. J'espère que vous avez pris de l'endurance.
Oui, si vous voulez. Alors, effectivement, l'époque des années 80, c'était Tapie face à Véronique et Davina. Et Bernard Tapie étant un peu leur équivalent masculin, donc proposant le dynamisme et l'activité du corps comme façon de s'en sortir. Sarkozy, c'est la version pour aujourd'hui de la même chose. On peut noter de façon anecdotique que son propre mode de vie, en tout cas ce qu'on en dit, c'est-à-dire le fait qu'il ne boirait pas, son jogging permanent, cette espèce de santé exaltante du corps qui lui permettrait, comme Napoléon, de dormir si peu et de travailler tant, font partie des arguments importants qui ont convaincu les Français, qui continuent d'ailleurs de les convaincre derrière les scandales actuels. Donc effectivement, il incarne ce rapport-là à la santé, mais avant, et là moins anecdotiquement, il incarne d'abord un très ancien rapport à la loi, qui est que la loi est l'alpha et l'oméga de l'ordre social. C'est ce à quoi il faut obéir pour qu'on puisse commencer à discuter, et c'est ce qui doit être appliqué avant d'être possiblement débattu, hein, ce qu'on voit d'ailleurs lorsque les journalistes arrivent à poser des questions aux policiers qui viennent arrêter les immigrés clandestins dans le cadre des quotas actuels de politique contre l'immigration clandestine, et les policiers disant on applique la loi en des termes, je veux pas faire de comparaison historique, voilà, on ne les fera pas, mais en des termes qu'on connaît et qui sont qu'effectivement il y a, alors là aussi on peut citer un mot de Foucault, il appelle ça l'idéalisme de la loi, donc il ne s'agit pas de citer Vichy ou Pétain, c'est l'idéalisme de la loi, c'est-à-dire la loi a raison parce qu'elle est la loi, y compris lorsque elle semble nous vouloir du bien, vouloir du bien à nos poumons et à nos santé. Quoi.
Alors, les plus attentifs des auditeurs ont reconnu le petit cliquetis de votre stylo que vous aviez déjà en main au moment de la décennie, des années 80.
Alors ouais, évidemment, je dois alors là, de façon très encore plus anecdotique, préciser que ce cliquetis nerveux est évidemment lié au fait que je viens d'arrêter de fumer.
Nous avons des garçons qui se lèvent à l'heure, qui disent bonjour, qui sont droits dans leurs bottes, et par conséquent, c'est une affaire qui tourne. Bon.
Et voilà, merci à toute l'équipe du Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, Serge Halimi, Maurice Lemoine, Dominique Vidal et François Cusset. François Cusset, le livre dont nous avons parlé à plusieurs reprises au cours de cette émission, La décennie, le grand cauchemar des années 80, sort en édition de poche, aux éditions de La Découverte. Un autre bouquin à signaler, d'Alain Beer. Alain Beer, La novlangue néolibérale, la rhétorique du fétichisme capitaliste. C'est les éditions Cahiers Libres, édition page 2, où, vous avez compris, Alain Beer parle du langage, la novlangue, comment nous sommes entourés et on nous gave d'entourloupes langagières. Un livre à paraître bientôt, sur lequel on se penchera, le livre de Laurent Bonelli, sociologue Laurent Bonelli, La France a peur, vous vous souvenez, La France a peur. Un certain Jiquel qui nous faisait peur, et bien sur l'insécurité, comment l'insécurité, le sentiment d'insécurité, la politique d'insécurité s'est installée dans notre pays, une histoire sociale de l'insécurité. C'est à paraître bientôt, toujours aux éditions de La Découverte. Un bouquin qui a l'air intéressant chez Panama, Elsa Fenner. Et pourtant, je me suis levé tôt, une immersion dans le quotidien des travailleurs précaires. Et puis le bouquin dont tout le monde va parler ces jours prochains, Madame, Monsieur, bonsoir, les dessous du premier JT de France, d'un certain Patrick Lebel qui n'existe pas. C'est un groupe de journalistes de TF1 qui balance et qui balance furieusement sur la façon dont la popote des éditions de journal de TF1 s'est gratinée. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas. Suivi, Olivier Riotor et Stéphane Poitevin étaient à la technique aujourd'hui. Yann Chouka et Koyen Guyen ont réalisé cette émission et Charlotte Perry attend vos messages au répondeur de là-bas. Si j'y suis, au 01 50 6 40 37 37. Il est 16h sur France Inter. Passé de quelques secondes, on se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis, de grande qualité demain, j'en suis sûr d'avance. Et je vous laisse avec Claire Servageant pour les infos. Salut à tous.